OK, on va continuer notre série sur le livre de la Genèse. On en est rendu au chapitre 14. Aujourd'hui, on va regarder les versets 17 à 24. Genèse, chapitre 14, les versets 17 à 24. Et le roi de Sodome s'en alla au-devant de lui, comme il s'en retournait après la défaite de Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui en la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Melchisédek, aussi roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu fort, souverain. Et il le bénit en disant, « Béni soit Abraham, par le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre, et loué soit le Dieu fort, souverain, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, « J'ai levé ma main à l'Éternel, le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre, en disant, « Si je prends rien de tout ce qui est à toi, depuis un fil jusqu'à une courroie de souliers, afin que tu ne dises point, j'ai enrichi Abraham. J'accepte seulement ce que les jeunes gens ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eskol et Mamré, qui prendront leur part. » Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui tout simplement « Le retour triomphal d'Abraham de la guerre et sa rencontre avec deux rois ». Alors, on va introduire aujourd'hui le personnage de Melchisédek. Parce que souvent, on lit ça rapidement et on ne comprend pas le rôle que ce personnage-là va jouer dans l'ensemble des Écritures et dans l'interprétation de certains autres passages, comme par exemple, dans le livre de Hébreux, on parle de Melchisédek. Et c'est un personnage clé pour comprendre quand Paul, ben on pense que c'est Paul, il y en a qui disent que c'est Paul qui a écrit Hébreux, il y en a d'autres qui disent que c'est d'autres, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Paul est en train de donner aux Hébreux la raison pour laquelle ils se devaient de ne pas retourner vers le système sacrificiel de l'Ancien Testament et pour leur démontrer la supériorité de la personne de Jésus-Christ sur l'ancien système. Et pour leur démontrer ça, il utilise le personnage de Melchisédek. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sait que les Hébreux, à l'époque où il y avait le système sacrificiel, pour être un souverain sacrificateur, il fallait que tu sois un fils de Lévi. Et pourquoi les Juifs voulaient retourner au système sacrificiel? Parce qu'ils disaient « Jésus n'est pas de la tribu des fils de Lévi, il est de la tribu de Juda. » Alors ils disaient « Comment peut-il être un souverain sacrificateur? Vous dites qu'il l'est, mais comment peut-il être un souverain sacrificateur puisqu'il ne descend pas de la tribu de Lévi? » Alors, on va voir que ce personnage-là, même s'il est mentionné ici assez rapidement, il y a des principes très importants qui sont enseignés sur lui, et ça introduit la notion de type et antitype. Ça, vous allez voir, je vais vous montrer deux bouquins. Vous montrer, on va le définir un petit peu plus tard, qu'est-ce que c'est un type, qu'est-ce que c'est un antitype. Je ne sors pas ça pour vous impressionner, je sors ça pour vous montrer que le thème des types et des antitypes, ça remplit les Écritures d'un bout à l'autre. Alors, si quelqu'un ne prend pas la peine à quelque part de fouiller un peu, d'aller chercher le jus qu'il y a là-dedans, il y a du jus, regardez. Ça, c'est un baptiste anglais, réformé baptiste des années 1700. Il a écrit cette brique-là. Regardez, c'est « Preaching from the types and metaphors of the Bible », sur les types et les antitypes, puis les métaphores. Et il y en a un autre, c'est celui du presbytérien, qui a écrit « Typology of Scripture ». Imaginez-vous, y a-tu de quoi à apprendre ou y a rien à apprendre? Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est introduit à un type, et qui est Melchisédek, et si on ne commence pas à comprendre un peu qu'est-ce que c'est un type, puis qu'est-ce que ça a pour but, on va passer au-dessus de grandes, grandes richesses et on va étudier les Écritures ou les lire de façon superficielle sans faire le lien entre le type et l'antitype. Le type, c'est toujours quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, mais qui symbolise quelque chose qui est à venir dans le Nouveau. Autrement dit, le type, c'est, on va le définir un peu plus tard, c'est toujours quelque chose, l'antitype, c'est toujours Jésus-Christ. Autrement dit, c'est de nous montrer quelque chose dans l'Ancien Testament qui pointait vers Jésus-Christ pour nous faire comprendre un aspect ou un autre de la personne de Christ. Alors, la notion de type et d'antitype, là, c'est d'une importance extrême si vous voulez comprendre les Écritures. Si vous voulez, tu sais, quand on dit, et quand le Seigneur a dit « sonder les Écritures », lui, il est partout dans les Écritures. Et si on n'étudie pas, on n'a pas aucune notion de ce que c'est les types et les antitypes, on passe au-dessus de grandes richesses. Alors, quelque part, pour ça que je voulais vous montrer, il existe des bouquins, peut-être qu'il y en a en français, s'il y en a en français, je ne les connais pas, mais ces deux-là, c'est des classiques. Quand on étudie l'Ancien Testament et on rencontre des personnages ou des événements ou des fêtes, ça a toujours un rapport avec la personne de Christ. Alors, plus on va comprendre ça, plus quand on va passer sur le passage, on va chercher Christ dans la personne, dans l'événement ou dans la chose. Par exemple, le tabernacle. Le tabernacle, c'était physique, c'était une tente. Mais tout ce qu'il y a décrit à l'intérieur de ça, ça a tout un rapport avec la personne de Christ. Ça pointait vers quelque chose de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans... on va introduire un petit peu la notion de typologie, type et antitype, mais c'est important de la saisir et de l'étudier un petit peu plus en profondeur. Alors, dans notre dernier sermon, on avait vu que le Très-Haut, les Écritures... utilise le mot hébreu « El Elyon ». Alors, « El Elyon », c'est vraiment le Dieu souverain. Alors, on avait vu qu'il avait permis la guerre dans la vie d'Abraham et qu'il s'en sert souvent pour des fins diverses. Soit qu'il s'en sert pour juger les méchants, et même aujourd'hui, les guerres 39, 45, 14, 18, ces choses-là, ça sert de ça. Là. C'est lui qui permet ces choses-là pour arriver à des fins particulières, soit pour punir les méchants ou soit pour corriger son peuple. On avait vu aussi dans la semaine dernière que le Seigneur contrôle de façon toutes les choses de façon souveraine et absolue et qu'il est le maître et le créateur des cieux et de la terre. Dieu contrôle absolument toutes choses. Je suis content qu'elle amène le livre « La souveraineté de Dieu » parce que « La souveraineté de Dieu » d'Arthur Pink va commencer à décrire un petit peu toutes les choses sur lesquelles Dieu règne. Dieu règne sur l'univers entier. Quand quelqu'un a la moindre idée de la grandeur de l'univers, on pense qu'on le sait, mais des fois, il faut rentrer dans les détails pour savoir la grandeur de tout cela. Et il contrôle cela d'une manière parfaite. Il n'y a rien qui se passe dans l'univers qui est hors du contrôle du Seigneur. Non seulement il contrôle l'univers, mais il contrôle le soleil, la lune, les étoiles, les nations, les individus, les événements et les circonstances de nos vies. Quand on commence à comprendre qui est El Elyon, pourquoi on utilise ce terme-là? C'est parce que c'est un terme qui implique sa souveraineté et sa suprématie sur toute chose, son contrôle absolu sur toute chose. Plus on comprend ça, plus... Alors, le Seigneur avait accordé une victoire éclatante à Abraham. Il était plus nombreux que lui. Il est parti avec 318 hommes, il les a écrasés parce qu'il a agi rapidement, il a agi avec sagesse et il a réussi à récupérer son neveu et la famille, et ses biens, et les autres rois aussi qui avaient été conquis. Il a tout récupéré ça. Mais il se rendait très bien compte que ce n'était pas sa puissance ou son intelligence. Il s'en rendait compte que c'est parce que Dieu lui avait accordé la grâce d'avoir la victoire. Alors, il avait pu délivrer son neveu, Lot et sa famille, récupérer leurs biens et les biens de tous les rois qui avaient été vaincus. Alors, là, on va regarder dans les versets 8 à 20... qui est, verset 18, c'est-à-dire à 20, 18 à 20, qui il est, le fameux Melchisédek. Le verset 18, ça dit, « Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. » Deux choses qu'on voit de lui. Il est un roi, il est un sacrificateur. Puis quand vous allez étudier votre Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que le roi n'avait pas la... Il ne pouvait pas être à la fois roi et sacrificateur. Je sais pas si vous venez du passage, il y a un roi qui a essayé à un moment donné, puis il a été foudroyé, là, il a été jugé par le Seigneur. Tu ne pouvais pas être à la fois roi et sacrificateur. Je pense déjà ça commence à nous faire rentrer dans la tête qu'il n'y a un seul qui peut être à la fois roi et sacrificateur, et c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible pour un roi d'être sacrificateur. Alors, Melchisédek, ça dit qu'il est un roi, parce que ça dit roi de Salem, et après ça, ça dit « Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut ». Si Dieu Très-Haut, là, c'est le fameux El Elyon. Si vous allez dans votre hébreu, c'est El Elyon. Alors, les rabbins juifs ont longtemps, certains du moins ont avancé, que Melchisédek était soit un ange, ou soit Sem, qui était le fils de Noé. Mais il n'y a rien dans le texte qui permet une telle interprétation. Il y a des commentateurs chrétiens qui, eux, disent que Melchisédek était une théophanie de Jésus-Christ. Ça non plus, il n'y a rien dans le texte qui permet de faire cette interprétation-là. Alors, c'est des fantaisies qui ne résistent pas à une exégèse sérieuse. Alors, quand on regarde le nom, la signification du nom, son nom signifie « roi de justice ». Alors déjà, ça pointe vers quelque chose, Jésus-Christ, comme de quoi il est le roi de justice. Et ça dit aussi qu'il était le roi de Salem. Quand on va dans le psaume 116 au verset 1 et 2, on lit « Au maître chante, psaume d'Azaph, cantique avec des instruments à cordes. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Son tabernacle est en Salem et son domicile en Sion. » Salem, c'est tout simplement une abréviation de Jérusalem. Donc, il était à la fois roi de paix, à la fois roi de justice et roi de paix. Est-ce que ça nous fait déjà regarder un petit peu plus à Jésus-Christ? Bien, certainement. Et ça dit qu'il était à la fois, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. L'introduction de ce personnage-là, bien souvent, on va avoir lu Genèse 14, puis ça va nous avoir passé 50 pieds au-dessus de la tête. De voir l'importance du personnage de Melchisédek dans les Écritures. Non seulement on va en parler là, mais il va revenir plus tard dans le psaume 110, et il va revenir plus tard dans le livre des Hébreux, pour nous montrer comment l'auteur du livre des Hébreux pouvait démontrer la supériorité de Jésus-Christ et ce qui l'autorisait à devenir un souverain sacrificateur. On va le voir un peu plus tard. Alors, ce qu'il a fait. Alors, Melchisédek rencontre Abraham qui revient avec toutes les personnes et les biens. Et là, ça dit, et il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Et là, il a fait apporter du pain et du vin en repas de communion. Alors encore là, le pain et le vin, on sait, on prend le repas du Seigneur, c'est encore deux éléments qui pointent vers Christ. Et là, il bénit Abraham et sa victoire. C'est important de lire vraiment attentivement ce qu'il a dit. Parce que ça dit, il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut. » Autrement dit, Melchisédek est en train de reconnaître que la victoire qu'il a eue sur ces rois-là venait de la bénédiction de El Elyon. Il dit « par le Dieu Très-Haut ». Il dit « béni soit Abraham, mais par le Dieu Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre ». Donc, il voit à côté le Créateur et la personne qui contrôle l'univers. Il dit « et béni soit le Dieu Très-Haut » ou « il bénit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains ». Alors, c'est vraiment la reconnaissance complète, entière, que toute la victoire dépend et a été accordée par grâce de par Dieu lui-même. Alors, il bénit Abraham par El Elyon, et sa bénédiction, il l'attribue au Dieu Très-Haut, au Dieu Tout-Puissant, au Créateur, le Dominateur, le Souverain, le Suprême des cieux et de la terre. Autrement dit, c'est lui qui contrôle toute chose qui se passe sur le globe. Et il bénit Elyon pour la victoire accordée à Abraham. Melchisédek reconnaît que le triomphe d'Abraham trouve sa cause ultime dans le Dieu Très-Haut. Je pense qu'il y a une leçon pour nous. Apprenons que dans toutes nos prières, nous devons louer le Seigneur. Sachons que dans toutes nos victoires, nous devons lui donner la gloire. N'oublions jamais de le remercier pour ses innombrables miséricordes et comme Christ lui-même, lors de sa venue sur terre, louons Dieu et réjouissons-nous en lui. Dans Luc 10, on voit que le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'il avait cette attitude-là envers son Père. Il dit, « Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et à ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, ô Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît qui est le Fils que le Père, ni qui est le Père que le Fils, et celui à qui le Fils le voudra révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Autrement dit, il est en train d'avoir une attitude de grande reconnaissance envers le Père, comme de quoi il avait révélé des mystères que les sages et les intelligents n'avaient pas aucunement saisis, puis que des personnes du bas peuple recevaient par pure grâce. Et il loue le Père pour cela. Maintenant, ce qui fut fait à Melchisédek, quand on regarde le verset 20, la deuxième partie, « Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Autrement dit, il lui donnait une partie des bénéfices, des biens, de la richesse qui avait été acquise. C'est important de voir qu'ici, on voit la supériorité de Melchisédek qui est reconnue par Abraham lui-même, le père des croyants. Il veut lui donner la dîme de tout, donc il est supérieur à Abraham et aussi à Aaron. Alors là, on va commencer à faire les liens entre le personnage et, un petit peu plus tard, qu'est-ce qui va être déclaré dans le livre de Hébreux. Le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas un livre qui est facile à comprendre. D'une façon particulière, si vous n'avez pas une étude un petit peu plus approfondie sur l'Ancien Testament, toute la partie d'Exode 25 à 40, où vous avez l'explication du tabernacle, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées dans Hébreu que si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, là, ça va vous passer six pieds par-dessus la tête, vous n'allez rien comprendre. Alors, dans Hébreu, chapitre 7, on vous l'a dit tantôt, Hébreu, chapitre 7, le but de l'Épître aux Hébreux, c'est de démontrer la supériorité de Christ, le personnage, sur la tentation que les Juifs de l'époque avaient de retourner dans l'ancien système sacrificiel. Alors, le thème de l'Épître aux Hébreux, c'est la supériorité infinie de Christ sur l'ancien système. Et là, on va voir qu'il est introduit dans le chapitre 7, au verset 4 à 10. Il dit, « Or, considérez combien est grand celui à qui Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. » Il fait référence à quoi, là? Il fait référence à ce qu'on est en train de lire ce matin. « Et tandis que ceux d'entre les fils de Lévi qui exercent la sacrificature ont l'ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont cependant issus des reins d'Abraham. Lui, qui n'était pas de la même famille qu'eux, il leva la dîme sur Abraham et bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Il faut faire le lien, là. L'inférieur qui est béni par le supérieur. Alors, le supérieur, il reconnaît que c'était que Melchisédek était son supérieur, le père des croyants. Et le verset 8, il dit « Ce sont ici des hommes mortels qui prélèvent les dîmes, mais là, il est attesté que celui qui les reçoit est vivant. Et Lévi, qui prélève les dîmes, les a aussi payés, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla devant lui. » C'est en train de dire que les sacrificateurs qui reçoivent la dîme à l'époque où les Juifs faisaient le système sacrificiel ancien, c'est en train de dire que ce personnage-là, il est venu beaucoup plus loin, Aaron. Aaron, c'était des siècles après le Melchisédek. Il est en train de dire qu'en recevant la dîme de la part d'Abraham, vu qu'il était déjà dans les reins de son... C'est un passage, il faut s'arrêter. C'est pas évident à saisir, nécessairement. Et Lévi, qui prélève les dîmes, les a aussi payés, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek allait au-devant de lui. Alors, ce Melchisédek-là, il signifie quelque chose de très important au niveau scripturaire et typologique. Pourquoi je vous ai montré les livres de typologie? C'est parce que les Écritures en sont remplies d'un couvert à l'autre, surtout dans l'Ancien Testament. Alors, on va commencer par vous donner une définition de ce que c'est un type, selon les théologiens. Et après, on va voir comment le personnage de Melchisédek illustre bien ce qu'est un type. Alors, un type, c'est une personne, un événement ou une chose de l'Ancien Testament qui a eu une réalité historique, donc qui a existé là, dans le temps, et qui comporte aussi comporte une intention divine, celle de préfigurer. Alors, ces choses-là ont été placées dans les Écritures, soit les personnes, soit les événements, ou soit les choses dans l'Ancien Testament. Et le but de ça, c'est qu'il y a une intention divine en arrêt de ça pour nous pointer vers le symbolisme, vers l'accomplissement futur que la chose va pointer dans le Nouveau Testament. Et ça comporte toujours un élément prophétique, donc quelque chose qui parle de l'avenir, et dont l'accomplissement dans le Nouveau Testament manifeste la supériorité de l'antitype. Qu'est-ce que c'est l'antitype? Toujours la personne de Christ. Alors, ce sont des choses de l'Ancien Testament. Une personne, un événement, ou une chose de l'Ancien Testament, qui a une réalité historique, qui comporte une intention divine, celle de préfigurer, et qui comporte aussi un élément prophétique, mais qui s'accomplit toujours dans le Nouveau Testament par la personne de Christ. Alors, ce sont toutes ces choses-là dans l'Ancien Testament qui pointent vers Christ. Alors, on va vous donner des exemples. La meilleure façon de... Alors, je ne vous nommerai pas tous les types et antitypes qu'il y a dans l'Ancien Testament parce qu'on n'est pas sorti du bois. Mais je vais vous en donner assez pour que vous compreniez. Par exemple, un type de Christ, Aaron, est un type de Christ. Pourquoi il est un type de Christ? Parce qu'il est l'ancien, c'est un souverain sacrificateur, celui qui pouvait entrer dans le tabernacle une fois par année et aller, pouvait rentrer dans le Saint des Saints une fois par année. Alors, il était un souverain sacrificateur. Christ est un souverain sacrificateur tel qu'il est mentionné dans le livre d'Hébreux. Un autre personnage, parce qu'on parle que des fois, c'est des personnes, Melchisédek. Melchisédek, si on voudrait faire une étude approfondie sur Melchisédek, on en a pour plusieurs sermons. Après ça, des événements. La Pâque juive. Quand on prend le repas du Seigneur, là, le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait quand il a institué le repas du Seigneur? Il était en train de faire ce que les Juifs se devaient de faire dans la semaine du 14 de Nisan. C'était d'offrir l'agneau et... qui soit brûlé, et tout ce qui a entouré ça, qui est décrit dans Exode 12. Donc, quand on lit Exode 12, où on parle de la Pâque juive, que Jésus est en train de fêter lorsqu'il a institué le repas du Seigneur. La fête, toutes les fêtes dans l'Ancien Testament, là, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des tabernacles, le sabbat, toutes ces fêtes-là, là, je suis loin de toutes les nommer, mais toutes ces fêtes-là, ça a un but de présenter un aspect ou un autre de la personne ou de l'œuvre de Jésus-Christ. Dès qu'on commence à regarder les fêtes avec cet angle-là, autrement dit, quand on voit Christ partout dans l'Ancien Testament, parce qu'il est partout, mais souvent on prend ça au premier degré, de façon littérale, et on ne voit pas le lien qui fait un lien direct avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors, on a vu des personnes, on a vu des événements, maintenant des choses. Le tabernacle lui-même, j'ai fait une étude à Rouyn-Noranda qui a duré, je pense, 25 semaines. Étudier le tabernacle au complet, 25 à 40, je pense que c'est 16 chapitres, avec tous les détails qu'il y a à l'intérieur de ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand vous avez fait une étude sur le tabernacle et qu'après vous allez lire Hébreu, vous comprenez quelque chose. Tandis qu'avant, ça glisse comme sur le dos d'un canard, puis souvent, ben, ça ne donne pas le résultat que ça devrait donner. Alors, des choses, il y a le tabernacle, il y a le rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, démontrant par là que l'ouverture maintenant au Saint des Saints était ouverte par sa propre mort. Alors, c'était le symbolisme que l'ancien rideau, apparemment, c'est un rideau qui avait quelque chose comme 2 pouces d'épais, qui séparait le Saint du Saint des Saints, et il n'y a pas une personne qui osait s'aventurer là. Si quelqu'un s'aventurait là, qui n'était pas le souverain sacrificateur, il était foudroyé. C'était la partie très sainte. Tu ne rentrais pas là n'importe comment. Il fallait que tu sois souverain sacrificateur, puis c'était à une époque bien précise. Et Jésus, sur la croix, quand il est mort, le fait que ce rideau-là s'est déchiré de haut en bas pendant que lui était sur la croix, démontrait que c'est lui qui était en train d'accomplir ce voile qui se déchire, que maintenant les croyants avaient accès au Saint des Saints. Alors, après ça, il y a l'offrande de l'Holocauste dans Lévitique. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié Lévitique. C'est un livre qui peut décourager n'importe quel croyant au début, quand il n'est pas habitué à voir Christ, parce que Christ est dans toutes ces choses-là. Quand on parle des offrandes, l'offrande de fleurs de farine, l'offrande de prospérité, l'offrande des sacrifices pour le péché, Lévitique 1, 2, 3, 4, etc. Quand on se met à étudier ces offrandes-là, en voyant le rapport que ces offrandes-là ont avec l'œuvre de Christ, dans ses différentes facettes, dans ses différents aspects, là, on trouve le livre de Lévitique intéressant. Ça, c'est extraordinaire, parce que la Bible, plus on l'étudie, plus on découvre sa richesse. Alors, là, je vous donne des exemples, des personnes, des événements, des choses qui ont un rapport, qui a une intention divine. Donc, le Seigneur veut qu'on voit des choses par rapport à la venue future de Jésus-Christ, qu'on appelle l'antitype. Plus on va rentrer dans l'étude de ça, quand on va arriver sur des personnages comme Aaron, et on va voir de plus en plus les rapports, les parallèles qu'on peut faire entre ces personnages-là ou ces événements-là ou ces fêtes-là et les mettre en rapport avec Christ, là, ça devient extrêmement intéressant. Tout devient intéressant à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de Melchisédek qui est un type? S'il est un type de Jésus-Christ, c'est qu'il présente des caractéristiques qui peuvent se comparer à Christ. Mais comme de raison, le type est toujours inférieur à l'antitype, parce que l'antitype, c'est l'accomplissement, c'est Jésus-Christ. Alors, sa dignité, il est roi. Il est roi de Salem ou de Jérusalem. Il a automatiquement de l'autorité et de la majesté. Il jouit d'un double office. Il est à la fois roi et sacrificateur du Très-Haut. Il a une double désignation, roi de 2 choses, roi de justice et roi de paix. Son apparition et sa disparition sont soudaines. Autrement dit, il apparaît comme un cheveu sur la soupe dans l'Ancien Testament. On ne dit pas d'où il vient, on ne dit pas de quelle généalogie il vient, mais tout cela, c'est volontaire, ça a été fait par le Saint-Esprit, ça a été voulu comme cela. Et il bénit Abraham de la part de Dieu. Alors Abraham se soumet volontairement à lui en lui payant la dîme. Le Saint-Esprit avait intentionnellement caché la généalogie de Melchisédek. Elle n'avait pas été enregistrée, ni conservée, ni écrite. Pourtant, c'était contraire aux coutumes des rois de l'Orient. Le Seigneur n'a pas voulu qu'on connaisse les origines ni la fin de ce personnage-là. Et je pense que ça fait un parallèle avec le Christ, parce que Christ était sans père humain, et Marie, sa mère, était seulement la mère de son humanité, et non pas de sa divinité. Le texte n'enseigne pas que Melchisédek était éternel. Il était bien un homme mortel qui est mort comme tous les hommes. Il n'était pas une théophanie de Christ ni un ange. Alors, si on fait un résumé rapide, un tableau comparatif entre Melchisédek, c'est comme si on ferait un tableau, on met Melchisédek d'un bord, on met Christ de l'autre. Alors, Melchisédek était un roi humain, immortel. Christ est le roi des rois et est immortel. Voyez-vous, ça parle de Christ d'une façon, quand on parle de Melchisédek, mais l'accomplissement est toujours de beaucoup supérieur. Melchisédek était roi de justice et de paix, et Jésus-Christ est notre justice. Vous souvenez-vous dans, qu'on appelle Jésus-Christ, comment il s'appelle? Jéhovah Tsikenu. Dans l'Ancien Testament, vous allez avoir le nom qui est un nom qui est donné à Christ, et on parle de Christ dans le contexte, et on parle de lui, Jéhovah Tsikenu, l'Éternel, notre justice. Et ça, c'est un titre qu'on a attribué à Christ lui-même. Donc, si Melchisédek était roi de justice et de paix, Jésus est Jéhovah Tsikenu, donc il est l'Éternel, notre justice. Il était Melchisédek, sacrificateur du Très-Haut. Pourquoi on peut dire que Jésus avait le droit d'exercer la souveraine sacrificature? C'est parce que dans le psaume 110, on va le lire. Je ne l'ai pas là. On va aller dans les Écritures elles-mêmes. Le psaume 110, où on trouve le passage où il est défini par Dieu le Père que Jésus-Christ pouvait assumer le rôle de souverain sacrificateur, même s'il ne descendait pas de la tribu de Lévi. Voyez-vous, ça dit dans le psaume 110, « L'Éternel dit à mon Seigneur. » Alors ici, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils. Parce que l'Éternel dit à mon Seigneur avec un S majuscule. Mm-hmm. Donc, l'Éternel parle à Jésus. Il dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. L'Éternel transmettra de Sion le sceptre de ta force en disant, « Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple plein de franche volonté au jour où tu assembleras ton armée en sainte pompe. La rosée de ta jeunesse te sera produite du sein de l'aube du jour. » Et voyez-vous, un verset clé, c'est celui, c'est 110, verset 4. « L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point, que tu es sacrificateur éternellement à la manière de Melchisédek. » Voyez-vous, l'autorité de Christ pour devenir souverain sacrificateur repose sur le personnage de Melchisédek qu'on vient de voir dans Genèse 14. Alors, c'est important de bien saisir ces choses-là, parce que sinon, on manque le bateau. Surtout en étudiant hébreu, là, si on n'a pas ces choses-là à la mémoire, on... Alors, bien entendu, quand on parle tout à l'heure, est reconnu supérieur par Abraham, celui qui donne la dîme à quelqu'un d'autre, c'est qu'on donne la dîme à un supérieur. Donc, s'il lui donnait la dîme, c'est parce qu'il reconnaissait que le Melchisédek lui était supérieur. Et il est reconnu aussi supérieur par Lévi, mais virtuellement. Ça, c'est un peu difficile à saisir. On parle qu'Aaron était dans les reins de son père, autrement dit. Et Abraham, en offrant le dîme, c'est comme si le personnage d'Aaron, lui aussi, il reconnaissait que la supériorité de Melchisédek. Et il avait le pouvoir, Melchisédek, de dîmer, de bénir et aussi de durer. Donc, Christ est l'infini supérieur et a le pouvoir de dîmer, de bénir et de durer toujours. Maintenant, on va regarder la rencontre avec le deuxième roi. Sur Melchisédek, il y aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire pour qu'on comprenne mieux. Mais c'est important de réaliser qu'on rentre en contact une des premières fois dans les Écritures avec un type. Comme l'arche de Noé. C'est un type. Tous ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. Alors, l'arche, on peut dire que c'est un type qui était l'antitype, c'est la personne de Christ. On était dans l'arche, on est dans l'arche, on est en lui, et à cause de ça, on peut. Alors, c'est la rencontre de Melchisédek, c'est une rencontre importante pour saisir des choses sur Jésus-Christ. La deuxième rencontre qu'il a faite, c'est avec le roi de Sodome. Dans le verset 17 et dans le verset 21, on lit « Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui après qu'il fut revenu de battre Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée du roi. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les richesses pour toi. » Alors, les versets 17 et 21 sont interprétés différemment, même par les commentateurs chrétiens. Certains voient dans l'attitude du roi de Sodome de l'arrogance, parce que tu es un roi vaincu, il y a un autre qui a ramassé tes gens, il a ramassé tes biens, et c'est comme lui est en train de dire à celui qui a la victoire, « Donne-moi une personne, puis garde les biens. » Il y en a qui voient ça comme de l'arrogance, et il y en a d'autres qui voient ça comme de quoi qui est raisonnable dans sa demande. Moi, je serais plutôt porté à penser, quand tu es vaincu, tu n'as aucun droit. Tu n'as pas d'affaire à dire à celui qui a le pouvoir de distribuer les biens, s'il le veut bien, parce que c'est à lui maintenant, ces biens-là. Alors, l'attitude d'Abraham devant la demande du roi de Sodome, c'est important de voir cela dans les versets 22 et 23. Et Abraham dit au roi de Sodome, « Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou une courroie de soulier, rien qui t'appartienne en sorte que tu ne dises pas, c'est moi qui enrichis Abraham. » Il a eu l'attitude de générosité, de magnanimité, de grandeur d'âme. Il dit, « Tu ne pourras pas dire que j'ai libéré le peuple juste pour des questions d'argent. » Alors, il reconnaît et il lui dit qu'il ne lui donnera aucunement un fil qui lui appartienne. Pour pas qu'il dise, ben c'est moi qui ai enrichi Abraham. Alors, la reconnaissance là-dedans de El Elyon, Abraham reconnaît le Seigneur dans l'équation de sa victoire. Cette reconnaissance-là, elle est à la fois publique et solennelle. Il le fait à l'aide d'un serment. Il prend même Elyon à témoin de l'authenticité de son engagement. Il sait que le Seigneur est omniscient, qu'il rétribue ceux qui prennent son nom en vain et qu'il s'expose à la rigueur divine s'il manque à sa parole. Alors, si on lit le psaume 15, versets 1 à 4, c'est intéressant d'avoir une leçon pour nous quant à la parole qu'on donne. Psaume de David, d'Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle, qui habitera sur la montagne de ta sainteté? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur, qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son voisin, qui regarde avec dédain l'homme méprisable et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Que si on fait une promesse, même si la réalisation de la promesse, ça nous coûte quelque chose, on se devrait de toujours, notre parole, tu sais, là, on parle des anciens, hein, les anciens, là, des fois, ils pouvaient se faire un contrat juste sur, OK, je te le vends. Quand quel gars, il avait dit, oui, je te le vends, c'était comme si ça avait été signé devant le notaire. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette attitude-là, on change les choses. Mais comme chrétien, c'est comme ça dit, s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. Alors, on voit ici la grande magnanimité, autrement dit la grandeur d'âme, la grande générosité, qui remet à la fois les personnes et les biens du roi de Sodome et de ses citoyens. Il démontre par le fait même que le motif de son action n'est ni la convoitise, ni la volonté de puissance. Il refuse d'utiliser ses droits légaux et ses privilèges comme conquérant victorieux. Alors, on voit qu'il a une conscience très tendre et qu'il reconnaît en El Elyon la source ultime de sa richesse. Mais c'est important de voir le verset 24 aussi, pour connaître encore davantage le caractère de la personne d'Abraham, qui dit « Rien pour moi, seulement ce que les jeunes gens ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, pour eux qu'ils prennent leur part. » Alors, ils ne cherchent pas à s'accumuler tout l'argent et tous les biens qu'ils auraient pu profiter. Et il dit, rien pour moi. Excepté ceux qui sont venus se battre avec moi, eux, je leur accorde leur part. Alors on voit non seulement la magnanimité, la grandeur d'âme, mais on voit aussi la justice. Abraham avait un esprit de justice en voulant récompenser ceux qui l'avaient accompagné, ceux qui avaient été à la guerre avec lui. Alors, je vois quelques applications. Les applications, alors la reconnaissance de la providence d'El Elyon dans toutes nos circonstances est essentielle. Quel est celui d'entre nous qui regarde les circonstances que Dieu place dans sa vie tous les jours et qui les reconnaît comme étant placées par Dieu lui-même dans nos vies? Alors, il faut s'habituer à voir la main de Dieu dans le déroulement de ce qui arrive dans nos vies. Je poserai une question par rapport à ça. Est-ce qu'on le sait uniquement intellectuellement ou est-ce qu'on le sait aussi pratiquement? Ça, c'est autre chose. Parce que dans Romains 8, 28, un verset qu'on cite souvent, mais qu'on comprend si peu. Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans le grec, c'est toute chose travaille ensemble. Ça veut dire que tout ce qui arrive, les petites circonstances de nos vies, ça travaille ensemble. C'est comme si le Seigneur était en train de faire un tricot avec tout ça. Ils travaillent ensemble dans un but. Et le but, c'est de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Ça concourt à notre bien, même si on ne le voit pas tout le temps. Quand Dieu nous envoie la maladie, on est 2-3 semaines au livre, ça fait mal. On a bien de la misère à voir la main de Dieu là-dedans. On est porté à ruiner un bras encore. Mais coudonc, qu'est-ce que tu t'es fait? Pourquoi tu m'envoies ça? Je mérite bien d'autres choses que ça. Et là, on ruine un bras encore. Pourtant, la Bible nous dit autant la maladie. Mais si tu reçois un chèque par la poste de 200 000, ah là, tu n'auras pas de misère à attribuer ça à Dieu. Oh Seigneur, je te remercie pour ta générosité. Je te remercie. Mais quand il arrive des choses désagréables, le chômage, la maladie, la mortalité, c'est toutes des choses qui nous dérangent et on a de la misère à voir la main de Dieu dans ça. Pourtant, Dieu se sert de tout dans nos vies. Parce que ça se dit bien, toute chose au pluriel contribue au bien-être. Deuxième application, rappelons-nous que toutes nos victoires trouvent leur source dans le Dieu Très-Haut. Implorons son secours dans nos combats avec la chair, avec le monde et avec Satan. Il est toujours prêt à nous aider et à nous soutenir. On a tous des combats à mener et on est sûr que si on y va par nos propres moyens, on va avoir une défaite monumentale. Mais si on met Dieu dans l'équation, bien sûr, ça va changer la donne. Troisième et dernière application, apprenons d'Abraham dans ses attitudes envers les autres. Générosité, détachement des choses de la terre, magnanimité, rencontre de Dieu dans nos victoires et justice envers les collaborateurs. Tout un caractère, hein, Abraham, quand on lit les différentes facettes de sa personnalité. Alors, prions le Seigneur de nous donner que nos attitudes se traduisent par des gestes et des comportements concrets. Que le Seigneur soit béni pour son don ineffable, la glorieuse personne de Jésus-Christ. Amen.